Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous présente un animal bien de chez nous et dont on connaît finalement très peu de choses. Avec ses pattes en forme de pelle, sa douce fourrure noire et son sens du toucher hyper développé, elle hante le monde souterrain. Je veux bien entendu parler de celle qui sculpte les méandres du sous-sol de nos jardins, la taupe. Dans l'interview, j'ai la chance de recevoir Olivier Guillaume, ingénieur de recherche et directeur adjoint de la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS, située à Moulis, en Ariège. Ses travaux portent principalement sur un animal unique en son genre, habitué des grottes et des cavernes, et qui ne semble jamais vieillir, le protée. Bonjour Olivier, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Vous entendez ? Ça y est, c'est Halloween ! Et même si le climat ne joue pas trop le jeu des plaids et du chocolat chaud, on est quand même prêt à frissonner en se racontant des histoires qui font peur. Il faut dire que si l'on est un peu imaginatif, dans nos sous-bois, on a le choix des bestioles inquiétantes pour remplir nos cœurs d'effroi. Le chuintement de la chouette effraie, les grognements de l'ours ou les feulements du chat sauvage, avouons-le, on n'emmènerait pas bien large dans la forêt la nuit avec eux. Mais moi, je dois vous avouer que le super prédateur que je n'aimerais vraiment pas rencontrer un soir de pleine lune toute seule dehors est tout autre. Une fourrure d'encre, une vitesse de déplacement impressionnante, un odorat infaillible et une rangée de dents qui laisse peu de place à l'imagination. Aucun prédateur n'égale la taupe. Ah bah oui, tiens, ça rigole, ça se moque. On voit bien que vous ne l'avez jamais côtoyée de près. Venez avec moi, là où elle vit, sous terre, car rares sont les humains qui l'ont croisée vivante à la lumière du jour. Suivez le guide, on descend. La taupe européenne, Talpa europaea, même si vous donnez sincèrement l'impression d'en douter, est une super prédatrice. Malgré ses modestes 17 cm de long, la longueur de ma main environ, c'est une chasseresse impitoyable qui se déplace à la vitesse de l'éclair. 1 mètre par seconde tout de même, 3,6 km à l'heure dans des galeries étroites et surtout dans le noir le plus complet. Même si on l'a autrefois accusé, à tort, de boulotter les racines des légumes dans les potagers, la taupe ne se repaît que de chair fraîche. Elle dévore tout ce qu'elle trouve sous terre et peut même sentir les vibrations d'une proie malchanceuse derrière de minces couches de terre. Figurent à son menu œufs de fourmis, chenilles et chrysalides, limaces, mille-pattes, taupes grillons et insectes de toute taille. Mais son mets absolument favori, c'est le lombric, notre ver de terre commun qui constitue 90% de son alimentation. On estime qu'elle en engloutit près de 20 par jour, 50 grammes environ. Et quand elle en a repéré un, c'est brutal. Âme sensible, s'abstenir. Elle se jette dessus et avant de l'engloutir, elle le nettoie consciencieusement. Elle utilise ses pattes en forme de pelle pour le vider de la moindre trace de terre. Un peu comme un tube de dentifrice qu'on presse. Urgh. Un peu dégueu, mais très pratique. On pense qu'en agissant ainsi, notre taupe, qui n'aime pas que ça lui crisse sous la dent, épargne un peu ses outils de travail. En effet, ses dents pointues et bien aiguisées s'usent avec de tels repas, et l'on pense qu'autour de 3-4 ans, c'est l'état de sa dentition, tout émoussée, qui précipite sa destinée et la mène au trépas. Ce n'est pas là sa technique la plus flippante. Non, non, non. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous le savez, la taupe vit principalement sous terre et elle ne quitte l'abri de ses galeries que dans des cas rarissimes et uniquement si sa vie en dépend. Même au plus froid de l'hiver, Elle reste sous terre. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'hiberne pas du tout, et doit continuer à trouver des vers juteux, même quand le frima est là. Sauf que les lombrics, eux, s'enfouissent profondément dans le sol pour gagner autant de chaleur que possible, et ils restent là, tranquilles pépouses, jusqu'au retour des beaux jours. Pour ne pas crier famine, notre taupe la joue donc fourmi de la fave de la fontaine et fait des réserves. Car oui, dans les multiples dénivelés de ces tunnels qui comptent plusieurs chambres à coucher et des toilettes privatives, la taupe s'aménage un garde-manger. Et la technique qu'elle a pour remplir ses placards est digne de l'histoire de Barbe Bleue. Quand elle tombe sur un lombric appétissant, la taupe agit vite et le mord au niveau de la tête. Croc ! L'infortuné ver de terre a beau se tordre en tous sens, les dents de notre fouisseuse finissent par avoir raison de lui, et il cesse de gigoter aussitôt. Mais, curieusement, et au lieu de le vider et de l'avaler en quelques secondes comme un spaghetti, la taupe l'amène dans un coin de son labyrinthe souterrain pour le stocker pour plus tard. Et là, on ne peut que constater qu'elle a su anticiper les disettes. Dans certains cas, elle peut enterrer quelques vers dans un coin, mais parfois elle va jusqu'à aménager une salle spéciale entièrement dédiée à les entasser. Vous imaginez le spectacle ? Mais comment se fait-il qu'ils ne pourrissent pas ces vers ainsi empilés sous terre au milieu de l'humus humide ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont vivants. Et oui, en les mordant à la tête, la taupe provoque des lésions qui paralysent les vers. Ils sont donc incapables de prendre la poudre d'escampette, mais le reste de leur organisme continue de fonctionner. Mais attention, les vers de terre, même s'ils ne peuvent pas survivre à l'acte barbare de les couper en deux, peuvent tout de même reconstituer certains bouts de leur corps. C'est le cas de cette zone de leur tête qui, une fois abîmée par les dents de la taupe, les empêche de bouger. Il a déjà été observé que si la taupe oublie dans sa réserve certains vers trop longtemps, ils sont capables de régénérer cette zone-là et de retrouver leur mobilité. Et là c'est ciao, ils se sauvent en catimini. On pense que la taupe peut entasser plusieurs centaines de victimes pour ses casse-croûtes hivernaux. D'après le numéro du magazine La Hulotte, écrit et illustré par Pierre Déhomme, il semblerait qu'un scientifique allemand tombât par hasard sur une salle au trésor de ce genre, lors d'un coup de bêche malencontreux. Il aurait dénombré 1280 lombrics entremêlés ensemble. Dingo, non ? Peut-être que la révélation du régime de vers de terre zombie ne va pas vous faire aimer davantage cette petite fouisseuse qui donne déjà du fil à retordre aux propriétaires de champs et de potagers bien ordonnés. Pourtant, et même si on ne l'aime pas beaucoup, la taupe est une bestiole tout à fait incroyable. Déjà, regardez ses petites patounes ! Ses mains sont très semblables aux nôtres. Avec ses 5 griffes et sa forme de pelle, elle est capable de creuser et repousser la terre avec une efficacité qui force l'admiration. Et puis surtout, c'est un vrai petit Hercule ! En creusant ses tunnels, elle doit constamment repousser ses gravats et porte à bout de bras la terre à évacuer. Certains scientifiques curieux ont essayé d'évaluer le poids que la taupe pouvait supporter lors de l'aménagement de ses chantiers. Certaines peuvent porter des boudins de terre de 40 cm de haut et qui pèsent jusqu'à 800 grammes, pas loin d'un kilo, ce qui représente 10 fois le poids de notre bestiole. En laboratoire, d'autres chercheurs ont observé qu'elle pouvait porter jusqu'à 3 kg, et d'une seule patte s'il vous plaît. À titre de comparaison, si un humain voulait se mesurer à ses prouesses et porter un poids équivalent, il devrait soulever plusieurs tonnes. Et ses super capacités ne s'arrêtent pas là. Alors ok, elle ne voit pas grand-chose, mais elle n'est pas totalement aveugle non plus, contrairement à ce que l'on entend souvent. En revanche, elle a le nez fin et sent très bien les vibrations. Pour s'aider à déambuler dans ses sombres tunnels, elle utilise sa petite queue, toujours dressée, qui lui sert de canne blanche et lui permet de tâter le toit de terre au-dessus de sa tête. Même si ses galeries sont étroites, en une pirouette, elle peut faire demi-tour grâce à une super flexibilité. Et pour mener à bien ses travaux sans s'épuiser dans un milieu pauvre en oxygène, la sélection naturelle a équipé notre taupe des meilleurs gadgets, mieux que Q dans 007. Outre ses super pattes pelleteuses, elle possède deux poumons gigantesques qui mesurent le double de la taille des poumons des autres petits mammifères de gabarit équivalent. Et ça ne s'arrête pas là. Dans son corps circule également deux fois plus de sang et deux fois plus d'hémoglobine, cette substance qui donne sa couleur rouge à notre sang et qui permet surtout de transporter l'oxygène aux différents organes du corps. Cette grande quantité de sang serait à l'origine de sa réputation d'hémophile, vous savez, cette maladie qui provoque une coagulation très lente du sang et qui rend chaque coupure dangereuse. Sachez que c'est totalement faux. et que la technique barbare qui consiste à mettre des morceaux de verre dans son terrier n'a donc aucune chance de la tuer. Cette grande quantité de sang lui permet de se mouvoir sans difficulté, même avec peu d'oxygène, et cette adaptation la rapproche du lama, qui partage cette caractéristique et peut porter des lourdes charges en altitude. Même si c'est moins impressionnant que les pics des Andes, il faut dire que dans les galeries de la taupe, l'air ne contient que 16% d'oxygène et 6% seulement dans certains recoins, alors que l'air que l'on respire, nous, en contient 21%. Et pourtant, elle creuse, tapote, évacue, soulève l'équivalent de tonnes de terre sans relâche du soir au matin. Même si les humains n'ont jamais aimé ces constructions, ils ont, semble-t-il, un peu d'admiration pour son train de vie d'enfer. Au XIXe siècle notamment, on utilisait le verbe « toper » pour dire de quelqu'un qu'il travaillait énormément. Et même si notre terrassière s'accorde des roupillons réguliers, toutes les 3-4 heures d'activité en moyenne, on ne peut que la remercier pour sa vivacité. En aménageant ces immenses galeries, la taupe aère le sol et joue le même rôle essentiel que les lombrics qui constituent son menu. Impossible donc de se passer de ses talents, quoi que les amoureux des pelouses impeccables puissent en dire. Alors, remballez vos bêches et vos pelles et remercions les actions de cette petite pelleteuse à réaction. Laissons-la modeler notre sol à foison. C'est dit ? Alors taupe-la. Et nous revoici avec notre invité, Olivier Guillaume, ingénieur de recherche et directeur adjoint de la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS, située à Moulis, en Ariège. Il vient nous parler d'un animal curieux, aquatique et mystérieux, le protée. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut un peu aider nos auditeurs et nos auditrices à se représenter cette drôle de créature qu'est le protée, faire surgir des images par la voix, c'est la magie de la radio. Alors, le protée, à quoi est-ce qu'il ressemble ?
Alors, il ressemble en fait à un triton, une salamandre, mais de grande taille à l'âge adulte, puisqu'on peut atteindre finalement des tailles muso-cloaques de 35-40 cm.
Quand même.
Les plus vieux animaux. Mais on a l'impression que c'est un animal étiré, hein, comme si on l'avait tiré un petit peu de la tête à la queue, c'est-à-dire que tous les organes sont allongés.
D'accord.
Il a un corps très fin, des pattes très très grêles, c'est un animal qui est aquatique, donc des pattes fines, très peu musculeuses, et également des branchies externes, y compris à l'âge adulte. Hein. Donc c'est un animal qui ne se métamorphose pas comme le ferait la plupart des amphibiens.
Donc ça veut dire qu'il garde des caractéristiques de petit, de subadulte, même quand il est en âge de se reproduire.
Alors en effet, c'est un animal qu'on dit néoténique, c'est-à-dire qu'il conserve des caractères juvéniles tout au long de sa vie, y compris après l'acquisition de la maturité sexuelle.
Un peu donc comme les fameux axolotes mexicains, c'est un peu la même chose ?
Tout à fait. Alors chez l'axolote, on sait que en fait, l'absence de métamorphose est liée à l'acquisition d'une mutation qui l'empêche de produire des hormones thyroïdiennes qui sont déclencheurs de la métamorphose. Ben, chez le protée, ça reste encore mystérieux, puisque l'animal semble avoir toute la machinerie cellulaire pour faire la métamorphose. Il produit des hormones thyroïdiennes, mais ça semble être sans effet.
Ok, donc encore une surprise qu'on examinera un peu plus tard. Donc c'est un animal très allongé, aquatique. De quelle couleur est-ce qu'il est, le protée ?
Alors il a une peau qui est de couleur un petit peu comme la nôtre. Hein. D'ailleurs, un de ses noms, de ses nombreux noms, c'est The Human Fish en anglais. On va dire rosâtre. Mais on voit en fait ses organes internes par transparence.
Donc le poisson humain, c'est son surnom.
Oui.
Mais ce n'est pas du tout un poisson, hein, d'accord ?
Pas du tout. En fait, c'est bien un amphibien, urodèle, pour ceux qui connaissent un peu la classification des amphibiens.
Donc des amphibiens qui ont donc une queue. Parce qu'il a une longue queue.
Une longue queue.
Comme les tritons, les salamandres.
Tout à fait.
Donc des branchies. Et donc, est-ce qu'il n'existe qu'une seule espèce de protée ?
Alors oui, en fait, c'est une famille protéidée qui est assez ancienne et qui a donné qu'un seul représentant à l'heure actuelle européen, donc qui est le Proteus sanguinus. Mais par contre, donc, il existe des cousins américains du genre Nectarus. Donc en fait, l'ancêtre commun vivait à l'époque où les deux continents étaient encore réunis.
D'accord. Donc, et c'est donc un animal, j'imagine, un peu unique en son genre. Il n'y a pas de cousin qui lui ressemble, même d'un point de vue morphologique. Cet animal très étiré dans des caves, il n'a pas d'équivalent ailleurs.
Alors, pas vraiment, sauf parmi d'autres amphibiens urodèles cavernicoles. Alors, il n'y en a pas beaucoup. À ce propos, c'est le seul vertébré cavernicole obligatoire d'Europe. Parmi tout l'ensemble des poissons, amphibiens, reptiles et oiseaux mammifères. Donc il n'y a qu'une seule espèce qui a su coloniser le milieu souterrain et finalement y être un petit peu piégé, c'est cette espèce-là, le protée. Il existe 7 autres espèces d'urodèles cavernicoles de par le monde qui sont tous nord-américains, avec des degrés d'inféodation vis-à-vis de ce milieu qui est variable, et on n'en connaît pas d'autres. Après, parmi les vertébrés, il y a finalement relativement peu d'espèces qui ont su coloniser le milieu souterrain. On compte à peu près, de par le monde, une centaine d'espèces de poissons, mais qui sont tous tropicaux-subtropicaux. Et il n'y a pas finalement de cavernicole obligatoire parmi, par exemple, les anours, donc les grenouilles, crapauds, les reptiles et oiseaux mammifères.
Mais donc, ça veut dire que cet animal, donc vous le disiez, il est cavernicole obligatoire, donc il vit forcément à l'abri de la lumière. Il n'a pas d'autre. Il ne peut pas vivre ailleurs. Il est obligatoirement inféodé à ce milieu-là.
Alors, en effet, il fait l'entièreté de son cycle sous terre. Il s'y nourrit également.
Okay.
Les séjours à l'extérieur de la grotte semblent être purement accidentels, avec des chances de survie qu'on a du mal à estimer, mais qui semblent être malgré tout relativement faibles. Donc il est un petit peu piégé dans cet environnement souterrain.
D'accord. Et du coup, donc, vous parlez du fait qu'ils se nourrissent dans ces grottes. Qu'est-ce que ça mange, un protée ?
Alors, en milieu naturel, on ne sait pas trop. Par le passé, lorsqu'on retrouvait des animaux et qu'on regardait un petit peu les contenus stomacaux, on trouvait évidemment des structures qui résistaient un petit peu à la digestion, donc des carapaces, des coquilles. Mais de là à dire que c'était représentatif finalement de ce qu'ils mangeaient, on ne sait pas. C'est un prédateur. Donc, il se nourrit finalement de petites proies, insectes, larves d'insectes, crustacés, mollusques qu'il peut trouver évidemment dans son milieu parmi la faune finalement de cavernicole.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire, il ne doit pas avoir un grand choix non plus.
Mais c'est surtout en termes de quantité, ça représente finalement une biomasse qui est faible. Puisqu'en fait, l'absence de lumière sous terre interdit la production primaire autotrophe du carbone, donc pas de végétation pour faire simple, et l'essentiel de la matière organique est apporté par infiltration, donc est produite à l'extérieur de la grotte, par infiltration ou lorsque les rivières finalement se perdent en milieu souterrain. Donc il doit se nourrir certes de la faune cavernicole locale, mais également être un peu opportuniste et puis chasser finalement ce qui est entraîné
ce qu'il
sous
trouve,
terre accidentellement. Après, on a quelques observations, mais de très rares observations, d'animaux éventuellement qui, au niveau des résurgences, sont vus rarement le jour, mais parfois la nuit. Donc peut-être qu'il y a, parmi quelques populations, possibilité d'aller aussi exploiter la ressource à l'extérieur de la grotte, ce qui est une stratégie qui est parfois utilisée par d'autres espèces, notamment d'invertébrés.
Mais il faut, j'imagine, qu'ils ne tombent pas sur un prédateur, parce que à l'extérieur de la grotte, voire même dans la grotte, est-ce que le protée a des prédateurs ?
Alors, on n'en connaît pas dans la grotte de prédateurs. À l'extérieur, effectivement, il y en a plusieurs susceptibles de s'intéresser finalement à cette proie. Surtout qu'elle peut être visible, sa couleur un peu blanchâtre la rend finalement assez visible la journée. Bon, à la rigueur la nuit, il peut peut-être se faufiler discrètement, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il n'est pas du tout adapté, a priori, à résister à l'extérieur de la grotte.
Oui, c'est ça. Il est vraiment fait. Et puis j'imagine, on en parlait, il a des petites pattes. Donc j'imagine que ce n'est pas un grand coureur. Il ne peut pas se sauver, il ne peut pas grimper. Il n'a pas franchement de moyens de défense à sa disposition.
Alors effectivement, ses pattes lui permettent un petit peu de marcher sur le fond.
D'accord.
C'est pratique en milieu aquatique. On n'a pas besoin d'avoir de pattes vraiment musculeuses. Il nage à la manière d'une anguille. D'ailleurs, un de ses noms, c'était le protée anguillard. Mais effectivement, ce n'est pas un mode de déplacement qui est normal. Ça peut effectivement lui permettre de se déplacer un petit peu en eau libre. Mais évidemment, s'il y a un obstacle un peu à franchir en s'agrippant sur le substrat, il n'est pas du tout préparé à cela.
Ouais. Et puis, j'imagine, vous avez dit qu'il était muni de branchies. Donc, ça veut dire qu'en dehors de l'eau, il ne peut pas rester très longtemps, voire pas du tout.
Exactement. Ouais. Même si, en fait, il peut sécréter une grande quantité de mucus lorsqu'il est un petit peu en condition de stress ou de dessiccation, qui protège un peu ses branchies. Par ailleurs, on sait que, en fait, c'est pratiquement le champion du monde de résistance à la vie en hypoxie, voire en anoxie. Donc, il est capable de se débrouiller, en absence un peu d'oxygène. Mais sur des très courtes périodes. Ça ne constitue pas, évidemment, on va dire, une situation qui est normale pour lui.
Ni très agréable, j'imagine. Mais bon, c'est impressionnant que ces petites bêtes puissent résister à de telles contraintes. C'est vrai que le milieu, voilà, sans lumière, avec peu d'oxygène, et malgré tout, la vie trouve son chemin. Comme dirait l'autre. Alors du coup, à Moulis, vous élevez des protées dans des grottes spécialement aménagées pour eux et leurs besoins. Je voudrais savoir un peu à quoi ressemblaient ces infrastructures. Il y a une grotte, il y en a plusieurs. Ce sont des grottes artificielles ou naturelles qui ont été aménagées pour les animaux ?
Alors en fait, le laboratoire a été créé sous la forme d'un laboratoire souterrain en 1948, avec l'idée dès le départ donc de s'approprier en quelque sorte une grotte naturelle qu'on aménagerait pour permettre le travail de recherche et notamment aussi la mise en élevage de différentes espèces cavernicoles qui supporteraient les températures souterraines nocturnes, c'est-à-dire aux alentours de 11-12 degrés, pour faire simple. Donc, dès la création du laboratoire, des spécimens ont été capturés en Slovénie, puisqu'en fait, c'est une espèce qui vit Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro-Herzégovine. Donc, capturer des spécimens en Slovénie, transportés donc à Moulis et acclimatés dans la grotte. Ils ont été mis dans des bassins, des aquariums en fonction effectivement de leur taille ultérieurement, avec l'idée d'obtenir la reproduction, donc pour avoir l'entièreté du cycle de développement qu'on ne connaissait pas et qu'on ne connaît toujours pas en nature. C'est vraiment issu des données issues de l'élevage. Okay. Et également pour pouvoir expérimenter. Coup de chance, il y a des reproductions qui ont démarré assez tôt dans l'histoire du laboratoire, puisque dès 1954, avec l'arrivée des premiers individus, on a observé quelques œufs. Ils ne se sont pas développés, mais 58-59, première ponte avec un développement donc des œufs satisfaisants. Bon, ça reste quand même, à l'heure actuelle, assez problématique, puisqu'on a à peu près un tiers seulement des œufs qui se développent parmi les pontes qu'on observe.
D'accord.
Mais bon, un succès qui a été rarement réitéré par d'autres structures, notamment puisque même nos collègues slovènes ont du mal. Ça a été observé à deux reprises dans deux grottes distinctes en Slovénie et de façon, on va dire, un petit peu opportuniste. Mmh. C'est-à-dire que c'était des animaux qui avaient été capturés dans la nature. Les femelles étaient en fait gravides et fécondées et elles ont pondu finalement pendant cette période de captivité. Donc voilà, un succès qui ne s'est pas démenti finalement en presque 70 ans d'élevage avec à peu près 4500 individus œufs pondus.
D'accord.
Mais finalement, c'est un animal qui est fragile vis-à-vis des conditions de captivité. Et on a malheureusement à déplorer des taux de mortalité conséquents, notamment par des épidémies.
D'accord. Hein,
c'est mal faire face finalement à des pathogènes auxquels il n'est pas habitué. C'est pour ça que dans les années 70, ça a été ouvert une deuxième grotte. Okay. Donc mes prédécesseurs ont fait ce choix de finalement couper l'élevage en deux, en quelque sorte, au cas où finalement une épidémie menacerait de finalement le cheptel, on aurait la possibilité peut-être de démarrer un nouvel élevage avec des individus conservés dans une deuxième grotte.
Oui, j'imagine que s'il y a un pathogène dans l'élevage, c'est très compliqué d'essayer de réduire la propagation, donc d'avoir deux groupes séparés, c'est vrai que ça peut être un bon plan.
Oui, parce qu'en fait, on est très démunis hein,
ah
en
oui.
termes soins, en termes zootechnie et soins vétérinaires. C'est très empirique, hein, malgré la longue histoire du laboratoire. Même si on commence à l'heure actuelle à avoir un petit peu plus de molécules à disposition qui nous permettent de tester de nouveaux traitements, lorsque finalement on est est face à des pathogènes, on ne sait pas trop quoi faire.
Bah, oui.
Surtout que c'est difficile de les diagnostiquer. Et souvent, quand on diagnostique la présence d'un pathogène, ce n'est pas le premier, finalement, qui est arrivé et qui a contaminé la bête et l'a fragilisée. Ce sont des pathogènes opportunistes qui se développent par la suite et qui, là, finalement, peuvent aboutir à la mort de l'animal assez rapidement.
Et puis, j'imagine que le proté n'est pas toujours très expressif sur sa santé, comment il se sent. C'est vrai qu'il y a ce souci-là. Moi, j'avais travaillé avec des oiseaux et souvent, les oiseaux, quand ils montrent des signes d'affaiblissement, c'est que souvent, la maladie est déjà assez avancée parce que pendant longtemps, ils montrent rien, quoi.
Alors, effectivement, ce n'est pas toujours évident de détecter ces premiers signes un peu de faiblesse parce que déjà, c'est un animal qui ne fait pas grand-chose, en fait. J'ose pas dire de séjourner parce qu'évidemment, il n'y a pas de rythme jour-nuit ni de rythme saisonnier, mais l'essentiel de son temps, en fait, il le passe à ne rien faire, à un petit peu s'économiser. Donc, il faut être en capacité de l'observer finalement assez finement pour voir qu'il a un petit changement de comportement, des postures anormales, des branchies un petit peu rouges, voire des vaisseaux sanguins qui apparaissent un petit peu là, turgescent à la surface de la peau. Bon, c'est pas simple. On essaie de mettre en place des surveillances sous les pierres avec des petits miroirs, des choses comme ça, quand on a des doutes, mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident.
Quand a été fondé le labo, vous n'aviez jamais eu de proté en captivité, donc il a fallu tout apprendre au final.
Tout à fait, parce qu'en fait, c'est une bête qui reste mal connue. En environnement naturel, c'est très compliqué. On a très peu d'infos sur son comportement, sa biologie, son écologie. Et c'est vrai qu'avant la création du laboratoire, elle était surtout connue d'exemplaires qui étaient fixés dans le formol et que se passaient les musées et qu'étudiaient les savants, finalement, sur des individus morts conservés. La mise en élevage et le succès de la reproduction à Moulis a permis d'observer tous les stades, d'arriver justement à la maturité sexuelle, qui est d'ailleurs prend entre 15 et 20 ans, et ensuite d'essayer de comprendre un petit peu mieux l'animal et éventuellement d'expérimenter pour déterminer des traits évolutifs, comment ils apparaissent et quels sont les caractères adaptatifs. Par exemple, une des premières expériences a été de mettre l'animal à la lumière, de l'exposer à la lumière. Alors, c'est un animal qui, normalement, est blanc, mais si on l'expose à la lumière, il peut se repigmenter et devenir noir. Alors, ça prend un peu de temps.
Oui, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que c'est plus ou moins immédiat ou est-ce que ça prend
plusieurs
jours,
plusieurs semaines ? Non, ça prend quelques mois pour avoir un maximum de pigmentation chez les adultes, parce qu'évidemment, on a commencé au départ à exposer les adultes. Donc, ça prend du temps et surtout, il faut le forcer parce que
dès
qu'on met une source lumineuse, sa première réaction, ça va être la fuite, essayer de se cacher. Donc, il faut l'obliger un petit peu à supporter ces conditions. Donc, c'est également, pour nous, ça a toujours été des conditions, évidemment, de lumière quand même assez ténues.
C'est tamisé.
Parce qu'évidemment, sinon, après, on a un stress, on a un animal qui n'est pas bien et qui, justement, attrape très facilement des maladies. Donc, il est capable de se repigmenter, ce qui n'est pas le cas de, finalement, la plupart d'animaux cavernicoles, on va dire, évolués, adaptés à l'environnement. Par contre, évidemment, d'autres structures, notamment celles qui sont liées à la vision, à la lumière, continuent de régresser, puisqu'on a un animal qui devient aveugle, finalement, à l'âge adulte.
Alors, quand en normal, il voit quand même quelque chose ?
Alors, en fait, à l'éclosion, on a des petites larves qui sont à la fois pigmentées et oculées.
Ok.
La pigmentation donc est permise par des petits chromatophores qui sont actifs en absence de lumière, donc ils produisent un petit peu de mélanine, donc il a un aspect moucheté. Et puis donc il a également des yeux qui sont fonctionnels, mais il y a très peu de cônes, très peu de bâtonnets, donc très certainement pas d'image qui peut être formée, mais voilà, détecter la lumière, du mouvement éventuellement. Et puis, en fait, tout ça régresse en quelques mois pour la pigmentation et en quelques années pour les structures liées à la vision. Et à l'âge adulte, donc, on a un animal dépigmenté, bien nous avons vu qu'il peut se repigmenter, mais par contre, un animal aveugle, et là, la régression oculaire est irréversible au cours de la vie de l'animal.
Alors, vous disiez que il devenait mature autour de 15-20 ans. Alors déjà, on mesure un peu la chance qu'il y ait eu des femelles capables de pondre au début parce qu'il fallait que les animaux soient en âge de pouvoir le faire. Mais là, du coup, au niveau des stades de développement, donc on part avec un œuf. Mais le stade larvaire est très long alors. Il y a plusieurs étapes différentes au niveau du développement avant que l'animal ait en tout cas son aspect d'adulte, même s'il n'est pas encore en capacité de se reproduire.
Alors, tout à fait. Alors déjà, en fait, dans la nature, on voit pratiquement que des adultes. C'est très, très rare et très récemment qu'ont été découverts deux sites, en fait, où on a pu observer de très jeunes stades. Donc c'est un peu normal qu'à l'époque, ils aient capturé finalement des adultes ou subadultes, les ayant ramenés à Moulis. En quelques années, ils ont pu obtenir finalement les premières pontes. Après, donc à l'éclosion, on a une larve qui n'est pas achevée. Donc elle vit encore sur les réserves vitellines faites par
dans
la mère. Mais les pattes donc, ne sont pas formées, la bouche n'est pas ouverte. Donc oui. Il y a à peu près une température, on va dire, de 11 degrés. Il y a à peu près encore 4 mois de développement pour arriver à une larve qui commence à être un peu autonome, à se déplacer facilement en marchant sur le fond et en nageant. Et elle commence à s'alimenter. Et elle est tout de suite donc prédatrice. Et après, effectivement, on a une phase assez longue jusqu'à l'acquisition de la maturité sexuelle qui pourrait être un petit peu plus précoce chez les mâles, mais on n'a pas suffisamment de recul. Bon, certes, 70 ans presque, c'est long, mais...
sur les animaux qui mettent 15 ans.
Sur cette espèce, finalement, ce n'est pas assez. Ouais. Donc, on aurait peut-être des adultes qui seraient sexuellement actifs à partir de 11-12 ans. Mais pour les femelles, première reproduction observée entre 15 et 20 ans.
Ouais.
Alors, c'est très variable. On a une fréquence de reproduction qui est très variable entre les individus. Donc, on a du mal à savoir exactement ce qui se passe et ce qui va déclencher la reproduction. Autre chose intéressante, c'est que en fait, des collègues slovènes, en examinant des spécimens qu'ils avaient trouvés morts à l'extérieur de la grotte, donc certainement entraînés au moment de crue, ont pu observer, après dissection, la présence des deux types de gonades, donc à la fois mâles et femelles. Donc ça pose question, effectivement, peut-être d'un changement de sexe au cours de la vie de l'animal, en fonction de différents paramètres. On sait que c'est fréquent, hein, notamment chez les poissons, en fonction de paramètres environnementaux, et également démographiques. Parfois, lorsqu'il y a, donc, par exemple, un déficit de mâles, on peut avoir des femelles qui sont capables de changer de sexe. Donc là, encore beaucoup d'interrogations autour de ces questions. Bon, pour faire simple, on maîtrise pas, on connaît pas grand-chose, on maîtrise vraiment pas sa reproduction. Surtout que c'est un animal qui, extérieurement, est très difficile à sexer. Encore à l'heure actuelle, même si on a des animaux adultes, c'est pas simple. On utilise des échographies qui permettent de bien diagnostiquer la présence de structures, on va dire, féminines. Mmh. Par contre, pour le mâle, c'est plus compliqué parce que le testicule est petit et contraste mal. Donc, souvent, on arrive à déterminer qu'on a des femelles, mais pour les mâles, c'est plus compliqué.
Et du coup, cet exemple de potentiellement changement de sexe ou d'hermaphrodisme, est-ce que ça existe chez d'autres amphibiens ou ça serait inédit chez le protée ?
Alors, ça peut exister, mais c'est exceptionnel. Effectivement, c'est relativement rare. Là encore, il faut être prudent. Hein. C'est
bien
effectivement
sûr.
Quelques observations. Mais effectivement, le déterminisme sexuel chez les amphibiens est très complexe. Ça peut être lié à des gènes portés par des chromosomes sexuels. Bon, pas de chance, c'est le proté. On n'a pas de différenciation en fait en chromosomes sexuels.
Ah oui, donc, et pas après, les femelles ont les mêmes chromosomes.
Oui.
Ah oui,
oui.
Ah oui.
Ils ne sont pas différenciés, du moins, des autres, des autosomes. Donc, on a classiquement, chez d'autres amphibiens, donc, des gènes portés par des autosomes qui déterminent le sexe. En fonction éventuellement des recombinaisons, des choses comme ça, il peut arriver effectivement qu'on ait des situations, mais qui sont vraiment...
C'est des mutations rares, des choses qui ne sont pas habituelles. Quoi.
Voilà, c'est okay. Vraiment pas habituel.
Et pour finir sur la question donc de l'élevage de Moulis, vous avez combien d'animaux pour l'instant dans l'élevage ?
Alors, à l'heure actuelle, j'en ai une centaine, mais là encore, c'est assez variable, hein, en fonction du succès. J'ai entre 2 et 52 ans à l'heure actuelle, pour ceux dont on connaît l'âge, parce que c'est vrai qu'en 70 ans, ça n'a pas toujours été simple de maintenir, je dirais, l'élevage à son top niveau, je dirais, en termes à la fois de zootechnie, de maintien de l'information. Donc là, à l'heure actuelle, malheureusement, les plus vieux animaux dont on connaît l'âge est 52 ans, alors que potentiellement, d'après nos modèles, basés sur des courbes de survie par classe d'âge, on pourrait atteindre 80-100 ans. Donc encore un peu de patience. Peut-être dans une cinquantaine d'années, on pourra confirmer réellement que c'est un animal qui peut vivre centenaire.
on leur souhaite. On vous laisse glandouiller, buller comme le proté, le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus.
De ton filet, sans poisson, mille poissons, sans mille poissons, de ton filet. De ton filet, sans poisson, mille poissons, sans mille poissons, de ton filet. Vois comme il scintille au soleil nouveau. Vois les gens du village partir à la nage, les tirer de l'eau. Sans mille poissons, de ton filet. Vois ces gens qui s'apprêtent à faire une fête sur ton vieux bateau. Vois la flamme qui flambe autour de leurs jambes. Vois comme ils sont beaux. De ton filet, sans poisson, mille poissons, sans mille poissons, de ton filet.
C'était 100 000 poissons dans ton filet de Christiane Legrand. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invité, Olivier Guillaume, ingénieur de recherche et directeur adjoint de la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS, située à Moulis, en Ariège. Il vient nous parler du proté, un animal mystérieux qui conserve encore bien des secrets. Alors, on l'a dit avant la pause, le proté est un animal au métabolisme très lent, qui vit dans les cavernes et qui n'a pas l'air très très actif. À première vue, comme ça, ils ne vont pas forcément du rêve. Alors, pourquoi est-ce que étudier le proté, c'est important? Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour la recherche?
Alors, c'est une espèce qui a toujours évidemment intrigué les chercheurs qui s'intéressaient à l'évolution et à l'adaptation à de nouveaux environnements très contraignants. Effectivement, le milieu souterrain, c'est pas séduisant. Donc, il y a l'obscurité constante, il y a très très peu de nourriture. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'en fait, finalement, cette espèce s'est décidée à y rentrer, à y rester? La question est encore en suspens. On sait que c'est une espèce qui a colonisé vraisemblablement cet environnement il y a plusieurs millions d'années. Il y a encore des débats, mais c'est sans doute à la faveur de glaciation qu'il a pu survivre sous terre, alors que en surface les espèces disparaissaient. Mais est-ce qu'il était auparavant toujours en contact avec des populations de surface? On ne sait pas. C'est pas simple parce qu'on a du mal à trouver des fossiles en milieu souterrain. C'est un milieu qui conserve mal finalement la matière vivante, y compris osseuse. Et surtout parce qu'on a affaire à un animal qui a un squelette cartilagineux, puisqu'il ne se métamorphose pas. Donc il reste finalement avec ce caractère juvénile. Et le cartilage, bien sûr, se dégrade très très vite, contrairement.
Donc on trouve plus de squelette du tout, quoi.
Donc on a du mal à retracer l'histoire finalement ancienne du proté. Mais finalement, il a réussi à survivre sous terre. Est-ce qu'il avait des traits qui étaient déjà préexistants, qui lui ont permis, ou alors ça s'est acquis au fur et à mesure de la colonisation du milieu souterrain? Ça reste une question d'actualité. Donc on travaille notamment à Moulis pour essayer de mieux comprendre ce phénomène. On arrive à montrer, notamment pour le métabolisme, qu'on peut avoir finalement une certaine plasticité du métabolisme chez certaines espèces qui colonisent le milieu souterrain. Donc il ne s'agit pas du proté, mais sur des espèces qui sont au premier stade de colonisation du milieu souterrain, on peut montrer que par plasticité phénotypique au niveau du métabolisme, on peut en quelques mois finalement abaisser très fortement son métabolisme basal, qui favorise évidemment la survie dans cet environnement avec très peu de ressources énergétiques.
C'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont être petit à petit moins en moins actifs, mais que ça va aussi se voir au niveau des données physiologiques, les battements cardiaques qui se ralentissent, ce genre de choses. C'est ça ce qu'on peut observer ?
Pour les battements cardiaques, c'est un peu compliqué à mesurer. On n'a pas vraiment à l'heure actuelle finalement de technique qui est efficiente pour comparer ça. On peut voir simplement au niveau de la consommation d'oxygène, qui est ce qu'on appelle un proxy, un caractère qui permet finalement assez bien d'estimer le niveau métabolique, que en fait tout est à l'économie. Voilà, on évite les grosses variations finalement métaboliques qui sont très compliquées à gérer pour l'organisme. Et donc on fait tout un petit peu lentement et à l'économie. Y compris, je dirais, son activité de locomotion, ses interactions. Donc tout cela prend du temps et on essaie de trouver finalement des stratagèmes qui facilitent. Alors par exemple, pour les déplacements, on sait que le proté fait des petites cartes olfactives. D'accord. Donc il laisse des traces chimiques un petit peu partout qui lui permettent finalement de retrouver son chemin assez rapidement. Il est assez fidèle à un site, un petit abri. Donc, il retrouve ce qu'on appelle du homing après s'être déplacé, sans trop finalement errer et perdre son temps. Alors, c'est un site qui peut être partagé par les congénères, avec les congénères. Il a un comportement social finalement assez complexe. Lorsqu'il n'est pas sexuellement mature, il a tendance à se regrouper. L'odeur est individuelle, donc il sait reconnaître sa propre odeur de celle de
ses congénères.
De ses congénères. Et il va plutôt avoir tendance justement à essayer de retrouver les congénères pour interagir.
Et ça ne serait pas forcément juste pour une raison pour se réchauffer, il y aurait vraiment des interactions sociales rechercher à proximité de l'autre parce que ce sont des animaux qui vivent en groupe.
Alors, pour se réchauffer, c'est compliqué parce qu'en fait, on est à température constante de toute façon.
Ils ne
produisent pas de chaleur puisque ce sont des animaux à sang froid. Mais par contre, évidemment, c'est l'idée, du moins à certains moments au cours de la vie, de l'activité de l'animal, de rechercher la présence du congénère pour échanger de l'information, très certainement. Ça peut être aussi, finalement, si les animaux se regroupent et sont en capacité de maintenir une certaine cohésion de groupe, ça veut dire qu'il y a peut-être de la nourriture à proximité qui le permet. Et puis sinon, on déstructure le groupe et puis chacun repart dans son coin pour essayer de trouver une source de nourriture adéquate. Il y a beaucoup de questions toujours compliquées à traiter parce qu'on a du mal à aller dans le milieu naturel,
Bien
on
sûr.
A du mal à travailler, à obtenir de l'information sur cette espèce dans son environnement.
Mais là, en captivité, vous êtes capable de mesurer, par exemple, ces échanges d'odeurs dont vous parliez? Est-ce que, par exemple, les protées marquent? Est-ce qu'ils ont des glandes? Et on sait quelles informations peuvent passer par ces odeurs?
Alors, ils ont des glandes qui sont actives hors période de reproduction, d'autres en période de reproduction. Après, c'est très compliqué parce qu'en général, quand on essaye, lorsqu'on fait un échantillonnage, qu'on essaye de récupérer un petit peu de mucus ou de récupérer de l'eau dans laquelle a trempé la bête, en analyse, on a un cocktail.
Il faut séparer.
et savoir quelle est la molécule ou finalement le groupe de molécules qui porte le signal, c'est très compliqué. Surtout, c'est un animal qui, en termes de réponse comportementale, effectivement, c'est pas évident.
Si on leur met l'odeur, ils vont pas se mettre à sauter sur place. Il n'y a pas de réponse très marquée.
Donc, ça reste effectivement quelque chose de très compliqué à mener. sur lequel on continue à travailler.
Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne suspecte pas qu'un animal voilà, qui vit qui, dans ses cavernes puisse avoir un comportement un peu social, qui est ce regroupement quand même entre individus, qui est quand même une communication entre eux via l'odeur. C'est intéressant de voir ça. J'imagine qu'ils sont muets, ils ne font pas du tout de bruit.
Non, non, effectivement, ils sont muets, du moins pour ce qu'on en sait. Par contre, ils ont une oreille interne qui
d'accord.
est fonctionnelle.
Donc ils peuvent entendre.
Ils entendent les bruits. Après, on ne sait pas trop dans quelle partie de l'environnement souterrain, finalement, ils vivent vraiment. On peut se dire que si c'est un environnement avec un débit relativement fort, ben, y a un bruit de fond qui peut gêner éventuellement, finalement, l'acoustique. Hein. Mais peut-être que, du moins, sur une partie de sa vie, il vit dans des systèmes un petit peu en marge du drain principal, qu'on appelle système annexe, avec de l'eau calme, à faible finalement renouvellement, mais toujours très pure, et que là, finalement, peut-être une communication acoustique, du moins de l'information par voie acoustique, est possible. Sinon, il a d'autres moyens. Il a des sens mécaniques qui sont très très développés, qui lui permettent, enfin qui contribuent notamment à repérer des proies assez facilement. Lorsque les proies bougent, il est capable de les localiser finalement aussi bien à l'odeur que grâce
avec
à ses sens mécaniques.
Avec les vibrations, avec d'accord. Donc on l'a dit quand même, l'une des caractéristiques du protée, c'est son impressionnante longévité. Puis on le disait, c'est un animal qui a un temps de maturation très très long, puisque les animaux sont matures sans doute autour de 15 ans. Est-ce qu'on a une idée de comment ça se fait que cet animal vive si longtemps? Outre le fait qu'il s'économise beaucoup, est-ce qu'il y a des mécanismes particuliers chez le protée qui pourraient expliquer cette longévité incroyable?
Alors, on aurait bien aimé avoir trouvé effectivement un mécanisme, évidemment, qui permette cette longévité importante en absence de signes de vieillissement.
Hein, c'est
donc
ça.
Bon, après, il faut rester encore prudent. Comme je disais, on a des animaux qu'on a pu étudier jusqu'à l'âge de 50 ans à peu près, alors qu'on a peut-être un animal finalement qui vit centenaire. Donc on est peut-être à
la moitié,
moitié de vie. Donc restons prudents sur ces questions-là. Mais donc non, on ne sait pas ce qui lui permet de vivre, alors que c'est un animal finalement qui est en dehors de tous les schémas classiques. On n'a pas trouvé de molécule particulière de jeunesse. Hein. Ce qui fait que finalement la seule hypothèse qui reste pour l'instant, c'est qu'il s'économise. Donc, en s'économisant, en évitant des grosses variations, notamment d'activité, ben, il produit très peu de sous-produits toxiques issus de son propre métabolisme, qui sont compliqués parfois à gérer pour les organismes et qui causent des attaques cellulaires. Donc, sans même avoir de mécanisme particulier de protection, ben, le fait qu'on produise finalement très très peu de sous-produits toxiques fait que on a des cellules qui finalement peuvent vivre beaucoup plus longtemps que chez d'autres organismes.
Parce que quand il y a une activité, c'est ça, il y a des espèces de substances qui sont produites par organismes qui vont jouer dans ce vieillissement cellulaire. C'est ça l'idée.
Oui, ouais. Oui, oui. C'est que effectivement, lorsqu'on a une activité quelle qu'elle soit, hein, surtout si ça s'emballe un petit peu, souvent la plupart des organismes arrivent mal à gérer finalement ces produits. Un petit peu déchets hein, qui sont produits, n'arrivent mal à les éliminer ou à les transformer sous des formes qui sont moins nocives.
Et donc, ça veut dire qu'en plus, il n'y a pas de signe de... Alors, je ne sais pas si on a pu l'observer, est-ce qu'on a déjà observé le décès par vieillesse d'un protée, mais ça veut dire qu'en gros, ils sont en pleine santé, ils n'ont pas de signe de sénescence, de vieillissement, il n'y a pas de cancer chez le protée, il n'y a pas d'arthrose, il n'y a rien comme mécanisme qui vont le limiter dans ses déplacements ou dans son métabolisme en vieillissant.
Non, on n'a pas à notre disposition ce genre d'observation. Pourtant, il existe finalement un site en Allemagne, dans le Harz, c'est une grotte de Rübeland, où des animaux ont été capturés en Slovénie il y a longtemps, les premiers, donc c'est dans les années 20. Mais là encore, on n'a pas la date exacte, donc c'est très compliqué pour finalement assurer un petit peu notre propos. Mais donc on a très certainement là des animaux qui ont 70-80 ans, chez qui, effectivement, on ne voit rien, et où il semble même que la reproduction soit encore possible, puisqu'on a pu observer récemment un développement, du moins des œufs, dans les oviductes. Chez les femelles, donc peut-être âgées de 70-80 ans.
Ah ouais.
Donc, possible d'avoir aussi une reproduction, même à cet âge-là.
Très tard dans la vie. Ouais, c'est, C'est très surprenant en tout cas. En lien avec ce qu'on vient de dire, c'est vrai que donc, le proté vit très vieux. C'est vrai que moi j'avais une question très pratico-pratique. Mais est-ce que la vitesse de génération, le rythme de vie bien particulier du proté, c'est un frein pour vos expériences dans un monde où on sait qu'il faut publier beaucoup et rapidement? Ou bien est-ce que justement la lenteur de cet animal vous permet de tester des choses inédites? Quel est l'avantage et l'inconvénient d'un modèle tel que le proté?
Alors, il y a beaucoup d'inconvénients, évidemment. Donc, on n'a pas énormément d'animaux, effectivement, à disposition. Du fait qu'on n'a pas forcément des reproductions régulières, on n'a pas non plus tous les âges. Et puis, il y a certaines expériences qu'on pourrait mener qui nous amèneraient à finalement obtenir des résultats après 15-20 ans. Donc à l'heure actuelle, la dynamique de la recherche fait que c'est pratiquement impossible d'organiser ça et de gérer ça. Par contre, effectivement, là, on a un modèle, alors j'ose pas trop prononcer ce terme, mais finalement une espèce chez qui on peut travailler par des approches comme la transcriptomie, par exemple, qui demande relativement peu, finalement, d'animaux pour obtenir déjà des réponses du génome.
Du coup, ça, c'est l'utilisation, c'est séquencer le génome de l'animal, c'est ça?
Alors, au-delà du séquençage du génome de l'animal, en fait, on expose l'animal à certaines conditions. Tout, très simplement, ça peut être la lumière. Et là, on récupère l'ARN et on regarde ce qui est donc transcrit de l'ADN en ARN, donc les gènes qui s'expriment.
D'accord, ok. Voilà.
Et après, il y a effectivement des reconstructions qui sont à faire pour essayer d'identifier à ce moment-là les gènes qui peuvent être réellement liés à finalement la réponse à cette exposition à la lumière. Donc on a des approches modernes de plus en plus à notre disposition qui permettent finalement d'avancer dans la recherche, mais on reste finalement quand même freiné par le fait que c'est un animal qui est avec un taux de renouvellement trop faible pour qu'on puisse réellement faire ce qu'on veut. Notamment, on privilégie bien sûr des approches non invasives.
Oui, c'est ce que j'ai demandé. Par exemple, récupérer l'ARN, j'imagine que ça peut se faire soit par prélèvement ou même à partir de l'eau dans laquelle l'animal vit. Comment est-ce que vous procédez?
Alors, à l'heure actuelle, on essaye de procéder au maximum par frottis, tout simplement, sur l'épithélium, au niveau du cloaque. On peut le faire au niveau aussi de l'environnement, donc en mettant dans des récipients avec très très peu d'eau pendant quelques temps, on arrive à récupérer pas mal de molécules, au-delà même des ARN, des protéines ou d'autres éléments qui sont produits par l'organisme. Donc c'est possible, c'est effectivement possible, mais ça reste quand même effectivement une recherche pas facilitée par le fait qu'on a très très peu de réplication possible on n'a pas toujours, comme je disais, des exemplaires de chaque stade, de chaque sexe. C'est pas simple.
Et puis vous le disiez, par exemple, c'est vrai que sexer les animaux, c'est très compliqué pour savoir qui est mâle, qui est femelle. Du coup, même ça, cette donnée-là, comment est-ce que vous faites pour mener vos expériences sans avoir la formation avec certitude? Ou alors, vous devez faire une grande campagne et sexer les animaux comme vous le pouvez avant? Parce que, mine de rien, le comportement des animaux, les réponses peuvent être différentes entre mâles et femelles.
Alors, c'est ça qu'on fait, en fait. lorsqu'on programme une expérience, on essaye de s'assurer qu'on a bien, effectivement, des individus de sexe. Et à ce moment-là, on est souvent obligé de les isoler. Parce que là encore, l'une des difficultés, c'est qu'on n'arrive pas à marquer individuellement les animaux pour les reconnaître ultérieurement. Toutes les techniques classiques, je dirais, de marquage.
Mettre de la peinture, ce genre de choses.
Ça ne marche pas. on est également contraint par ça. Donc, en général, on s'assure, dans le cadre de la planification d'expérience, qu'on a bien des animaux avec le phénotype que l'on attend.
Et donc, pour conclure, là, sur quoi travaillez-vous en ce moment très précisément? Sur quelles expériences, quelles questions est-ce que vous essayez de répondre à propos des protées en ce moment?
Alors, il y en a plusieurs, parce qu'en fait, c'est un travail de collaboration avec des équipes d'autres unités de recherche qui sont spécialistes d'une approche, par exemple la transcriptomie qu'on a citée. À l'heure actuelle, on a deux programmes là qui démarrent, un qui est sur justement l'effet de la thyroxine donc sur l'organisme. On sait que ça déclenche pas de métamorphose, mais ça doit entraîner très certainement une réponse. Donc on essaye de mesurer. Donc c'est un des exemples. On travaille également à l'heure actuelle sur le microbiote, donc environnemental, cutané et également cloacal, donc à la fois on va dire intestinal et génital, pour essayer de voir notamment la part de ce microbiote à la fois dans la réponse immunitaire, enfin dans l'immunité générale de l'organisme, et peut-être pourquoi pas aussi dans l'alimentation, puisque il est très possible que l'activité des bactéries intimement liées à l'organisme permette de produire notamment des acides aminés que l'organisme lui-même n'est pas en capacité de synthétiser.
Okay.
Donc, voilà le type de deux exemples de recherche qui démarrent cette année.
Ok, et du coup, oui, ce fameux microbiote, donc c'est vraiment l'ensemble des micro-organismes, et donc il y a à la fois donc, en cutané sur la peau, mais aussi, donc voilà, non, parce que c'est vrai que chez l'être humain, on parle beaucoup du microbiote au niveau des intestins, mais du coup, là, il y a aussi un microbiote au niveau de la peau qui vous intéresse également.
Oui, okay. Tout à fait. En fait, il faut le voir comme un continuum, mais avec des variations possibles en fonction de la localisation hein, du tissu qui supporte finalement ce biome intestinal et de l'activité même de ce tissu.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions. On a hâte d'en savoir plus sur vos prochaines avancées à propos de ces mystérioprotées. Merci beaucoup d'être venu nous les présenter et d'avoir accepté de répondre à mes questions. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils de lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller deux livres et un court reportage pour mettre à l'honneur les créatures de l'obscurité dont on a pu parler aujourd'hui. Une grande partie de la chronique d'aujourd'hui dédiée à la taupe est basée sur le numéro double numéro 68 et 69 du magazine La Hulotte. En 92 pages très richement illustrées en noir et blanc, Pierre Desommes compile toutes les dernières connaissances sur cette petite bête que tout le monde connaît, mais que très peu de privilégiés ont pu observer déambuler à la lumière du jour. Modes de vie, construction de forteresses, croyances anciennes et découvertes scientifiques y sont expliquées simplement et avec un souci du détail qui force le respect. À mon sens, l'un des meilleurs numéros de La Hulotte, et c'est quelque chose. C'est l'ouvrage de référence en français, foncé. L'autre ouvrage que j'aimerais vous recommander est un album jeunesse paru dans les années 1990, mais qui est toujours édité aujourd'hui. Il s'agit de La taupe du jardin de Toyomi Tanaka, traduit par Rainer Lancel, paru chez l'École des loisirs dans la collection Archimède. Cet album au format carré, superbement illustré à l'aquarelle et au crayon, débute avec un drame somme toute commun. Un chat attrape une taupe et la malmène. Yutaka, le petit garçon de la maison, récupère la petite bête et la montre à son père, qui l'aide à la mettre à l'abri. De quoi a-t-elle besoin? Que mange-t-elle? Ils vont même jusqu'à se rendre à l'université pour rencontrer des scientifiques qui l'étudient et qui leur montrent tout le réseau de galeries qu'ils ont construit pour elle. Même si l'allure du livre est résolument rétro, on apprend beaucoup de choses sur le mode de vie de la taupe et on en prend plein les yeux grâce au dessin sublime de Toyomi Tanaka. Et si le monde souterrain vous intrigue, vous pouvez compléter votre lecture par celle d'un autre album de la même collection intitulé « Sa grouille sous terre » par Masao Ono et Tatsuhide Matsuoka et qui permet de zoomer sur tous les habitants qui vivent sous nos pieds. Les habitants du sous-sol n'auront plus aucun secret pour vous. Enfin et pour finir, pour voir notre invité en action avec ses charmants protés, je vous conseille de visionner son interview filmée par le réalisateur Jacques Mitch pour la série « Qui cherche, cherche » et que vous pouvez retrouver gratuitement sur la chaîne YouTube Le Blob. En 2 minutes 23, vous pourrez avoir un résumé clair et imagé de tout ce qui fait de cette petite bête une créature tout à fait fascinante. Cela vous permettra aussi de voir sa frimousse et les installations dans la grotte de Moulis. Je vous mets le lien, comme d'habitude, sur Internet avec le résumé de l'émission. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique,
à toute l'équipe de Campus FM ainsi qu'à Joseph Sardin du site lasonothèque.org pour les sons additionnels. Merci aussi à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.